7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Un an après les attentats de janvier, nous consacrons notre émission aux femmes à l'épreuve de la radicalisation. Pourquoi elles ? Parce qu'elles sont en première ligne en tant que mères, parce qu'elles ont décidé de se battre et surtout de parler, quoi qu'il leur en coûte. Parler partout, tout le temps, pour combattre l'inertie et l'oubli. Grâce à elles, entre autres, la France n'efface rien et à défaut de s'unir dans un même élan, eh bien, demeure en tout cas en état d'inquiétude intense. Bonjour Véronique Roy.
Bonjour.
Votre fils cadet a quitté la France pour rejoindre Daesh. C'était en septembre 2014, il y a donc plus d'un an. Il avait 22 ans. Les dernières nouvelles que vous avez reçues de votre fils, Véronique ?
Les dernières nouvelles remontent au 15 novembre. Je m'étais manifestée auprès de lui. On avait des contacts très très fréquents jusqu'à ce moment-là, après les attentats. Et je lui avais dit, de grâce, appelle-moi, on est très inquiets, on n'en peut plus de cette violence, etc.
C'était deux jours après les attentats
du 13
novembre.
Et donc on a eu des petits messages où il dit, voilà, coucou maman. Ça voulait dire, je vais bien et toi, comment tu vas ? Puisqu'il sait que, voilà, on pouvait être là, malheureusement, où il y a eu les attentats, dans le RER
également.
Depuis
plus rien.
Depuis plus rien. Et il nous a dit, je comprends que vous soyez choqués. Donc moi, ça me laisse de l'espoir parce que je me dis, réfléchis encore. Et en même temps, il dit, voilà, c'est la guerre. Et ce qui arrive est normal, prévisible. Et voilà.
Vous travaillez depuis, bien sûr, le départ de votre fils en réseau avec d'autres familles. Vous avez participé à un clip Stop Djihadisme. Également dans le studio Latifa Ibn Ziaten, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'association Imad Ibn Ziaten, du nom de votre fils, militaire français, assassiné par le djihadiste Mohamed Merah. C'était en 2012. Depuis ce drame, vous sillonnez les quartiers, les écoles. Vous publiez votre deuxième livre, déjà. Dis-nous, Latifa, c'est quoi la tolérance avec finalement la résonance de toutes les questions que l'on vous pose dans les salles de classe auprès des jeunes. Infatigable, Latifa Ibn Ziaten ?
Non, je ne suis pas fatiguée du tout. C'est important de ramener ce combat aujourd'hui pour aider cette jeunesse perdue. C'est très important.
Nadia Rebadna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mère de 4 enfants. Vous avez élevé seule en Seine-Saint-Denis. Vous avez fondé, Dieu merci, ils ne sont pas partis pour la Syrie. Vous avez fondé il y a près d'un an la Brigade des Mères. Mmh. Et vous racontez vos exaspérations, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Beaucoup vis-à-vis des pouvoirs publics. Dans votre livre, avec un très long titre, votre livre. Avant, on craignait que nos enfants tombent dans la délinquance. Maintenant, on a peur qu'ils deviennent des terroristes. Comment j'ai sauvé mes enfants ? On entendra aussi le témoignage de Sophie Kassiki, une Française qui a passé 2 mois en Syrie avec son fils de 4 ans, embrigadé par 3 jeunes.
7 milliards de voisins.
Charlie Hebdo, un an après.
Véronique Roy, votre fils cadet donc a quitté la France pour rejoindre Daesh. C'était en septembre 2014. Vous avez 2 fils, grandis à Sevran. Leur papa est d'origine haïtienne, une famille de culture chrétienne, on va dire. Que
oui.
S'est-il passé ?
Si je savais. Je me pose beaucoup de questions aujourd'hui parce qu'on essaie de remonter
vous
le fil.
C'est ça, vous refaites encore le film ?
Bah oui, on refait le film, on essaie de comprendre. On fait partie des familles dont les enfants convertis partent. C'est à peu près aujourd'hui 25% des jeunes qui partent en Syrie. C'est un chiffre qui a tendance plutôt à augmenter. Donc c'est extrêmement préoccupant. Ça pose des questions quand même sur la société. Pourquoi des jeunes aujourd'hui qui ont tout, je parle pour moi, mais je parle aussi au nom d'autres familles que je connais dont les enfants sont partis. Des familles aimantes, les enfants ont tout. Ils font des études, ils sont intégrés dans la société, ils n'ont pas de problèmes particuliers, ils n'ont pas de signes extérieurs qui puissent alerter. C'est pas des enfants en marge.
Néanmoins, vous avez vu votre fils se radicaliser.
Je voudrais dire, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, avec le recul, un an après, on peut dire c'est un signe de radicalisation. Mais sur le moment, je ne l'interprète.
Vous l'avez vu changer.
Oui, je l'ai vu changer. D'abord, il nous annonce sa conversion à peu près 2 ans avant son départ. Nous, on est une famille plutôt ouverte, tolérante. On a élevé nos enfants dans l'humanisme. Il nous dit, je suis devenu musulman. On le met pas à la porte. On lui dit, ok, bah écoute, si tu es heureux avec ça, on sera heureux pour toi. Mais prends le bon chemin. À ce moment-là, je ne me dis pas devenir musulman va faire de lui un potentiel terroriste. D'accord. Et puis avec le temps, effectivement, il y a des petits signes d'extrémisme. C'est-à-dire qu'ils pratiquent de plus en plus de manière orthodoxe. Mais qui pratique de manière orthodoxe ne veut pas dire non plus m'inquiéter au point de imaginer un départ en Syrie. Sauf que c'est dans un contexte où il y a effectivement la guerre en Syrie. On parle des rebelles, il faut aller les aider, etc. Lui, il ne parle jamais de voyage, de quoi que ce soit, de prendre des armes, etc. C'est un pacifiste. Et au départ, il est dans une démarche vraiment spirituelle. Mmh. C'est-à-dire que là, cette religion qu'il a découverte, lui plaît.
Oui.
Alors, lui plaît parce qu'elle est moderne, elle est la plus récente.
Mais vous êtes allé voir les associations musulmanes de quartier que fréquentait votre fils, qui elles-mêmes se sont rendues compte que votre fils changeait, et pas tout à fait dans le sens des discussions de ces associations de quartier, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Je suis allée en fait à la rencontre de beaucoup de personnes. La Grande Mosquée de Paris, avant son départ, parce que je trouvais qu'il avait une pratique qui était austère. C'est ça qui m'a inquiété, en fait. Je pensais pas au départ en Syrie, j'étais à milieu de tout ça. Mais je trouvais qu'il avait une pratique qui n'était pas moderne. Et je lui disais, tous ces signes extérieurs de religiosité me plaisent pas. Et j'ai demandé conseil à la Grande Mosquée de Paris. Ils m'ont dit, oh, il est sur le fil, c'est un ignorant. Il est sur le fil, mais cinq mois après, il est parti. On m'a pas donné des clés, rien du tout. Et les associations de jeunes musulmans qu'il fréquentait...
Il y a plus d'un an aussi, il faut dire que depuis les attentats là, du 13 novembre, qu'est-ce qui a changé selon vous pour les familles comme vous?
D'abord, ce qui a changé pour les familles qui sont maintenant concernées par des départs en Syrie, c'est qu'on en parle plus. Il existe un numéro vert, par exemple, qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, quand on est en détresse, on peut déjà au moins appeler ce numéro, faire un signalement, voir le degré de radicalité de son enfant.
Vous vous sentiez très isolé auparavant, en tout cas les premiers mois.
Complètement, mais bien sûr, on est complètement largué. Personne ne nous aide. On ne nous aide pas dans les institutions dites religieuses, parce que c'est quand même un problème religieux aussi à la base. On ne nous aide pas au niveau politique. On fait des choses maintenant au niveau de la prévention pour éviter que des jeunes ne partent. Et il y a des résultats, mais on ne fait pas grand-chose pour les jeunes qui sont partis là-bas. On va pas les chercher. Et nous, quand on a voulu aller chercher notre fils au début, on nous a dit « Oh là là, surtout pas !» Que ce soit au niveau de DRG, la DCRI, la police, le commissariat, et même les familles, on nous dit « Oh là là, surtout garde le lien avec lui, ne brise pas le lien. » C'est ça qui peut le faire revenir. Mais il faut surtout pas y aller. C'est dangereux. Alors on fait quoi? On garde le contact.
On comprend bien votre sentiment d'impuissance, mais néanmoins, vous avez envie d'agir. Latifa Ibn Ziaten, vous êtes fondatrice de l'association Imad Ibn Ziaten, donc du nom de votre fils militaire français assassiné en 2012 par le djihadiste Mohamed Merah. Vous avez reçu le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits, parce qu'il faut bien dire que depuis l'assassinat de votre fils, vous n'arrêtez pas.
Non, parce qu'il y a du travail. Il y a énorme travail. Le travail, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec l'État. Il y a un travail énorme. C'est pour ça que je passe toujours ce message aux parents. On est responsable de nos enfants. Quand on fait un enfant, on a nos devoirs vers l'enfant. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qu'on échappe. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout ce qu'on en voit, on doit quand même aider notre enfant. Et c'est pour ça que je dis, chaque mère, que vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, appelez de l'aide. Mais il ne faut pas attendre jusqu'à qu'il part.
Vous dites chaque mère.
Chaque mère. Qui,
oui, voilà. Appelez qui, madame?
Appelez qui?
Vous savez,
il y a un ange, il fallait que j'appelle qui?
Oui, on peut appeler même n'importe quelle association, n'importe quelle personne. On peut pas rester.
Réponse, madame,
c'est
pas une
réponse.
C'est pas
aussi facile. Savez, que ça. J'ai sauvé deux jeunes, madame, de pas partir en Syrie. Il y a deux mères qui sont venues me voir et j'ai tout fait. Et j'ai aidé ces jeunes, ils sont encore là. Ils sont pas partis.
Mais certains, je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, mais je peux vous assurer qu'il y a un an et quelques mois, il y avait rien.
Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous savez, un enfant qui se convertit.
Il se revendique de l'islam.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'islam.
Ah non, mais je veux bien croire. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous et je le crois à 100%. Simplement, mon fils, quand il s'est converti, nous a fait une lettre de conversion très belle. En nous disant, c'est une religion d'amour, etc. J'ai lu des passages du Coran avec lui. J'ai dit, OK, c'est une belle religion d'amour, comme les autres religions. Je n'ai aucun souci avec ça. Sauf que son discours a évolué. Il a croisé les mauvaises personnes qui ont lui dit « L'islam que tu as découvert n'est pas le bon islam. »
C'est bien ce qui s'appelle la radicalisation.
Mais oui, c'est ça le problème. Et c'est que ces gens sont dans nos quartiers, dans nos terrains.
Latifa Ibn Ziaten, vous avez été récemment, c'était il y a un mois, agressée verbalement en marge d'un colloque sur la laïcité à l'Assemblée nationale, parce que vous êtes évidemment demandée partout, parce que vous portez un foulard.
Oui.
Ça vous inquiète?
Non. Non, ça m'inquiète pas parce que...
Ça vous surprend?
Ça me surprend parce que j'étais surprise dans les lieux publics, publicains, de voir deux hommes bien posés, que je ne crois pas, ils m'ont agressé. Ils m'ont suivi jusqu'à l'ascenseur. Et heureusement qu'il y avait la sécurité, parce que si je n'avais pas la sécurité avec moi, je suis sûre et certaine, ils m'auront craché dessus.
Oui, c'est ça.
Voilà. Parce qu'il n'y a pas de.
Dans les écoles que vous sillonnez, que dans les associations de quartier, vous allez beaucoup dans les lieux scolaires. Hein. Comment ça se passe avec les jeunes, avec les enfants,
vous
avec
savez rien
les qu'hier. Adolescents?
Hier, j'ai fait un témoignage d'un établissement scolaire, la moitié de classe qui pleurait. Il y a une souffrance énorme. Quand vous parlez d'amour, ça touche à l'enfant. Vous savez, hier, j'ai dit, promets-moi, rentrez chez vous et dites à votre maman, je vous aime, ma mère.
Quelles sont les questions des jeunes qui reviennent en permanence?
En permanence, ils disent, on est oubliés. On n'aura pas la chance de s'en sortir. On est dans un ghetto, madame. On est dans une école, regardez, il n'y a pas de mixité. Comment vous voulez qu'on aura une chance de s'en sortir? Et je trouve, c'est beaucoup d'enfants, c'est pour ça qu'il y a du travail avec les parents, avec l'école et avec les élèves. Si les parents ils suivent leur enfant, l'enfant il peut partir. Si les parents ils sont pas derrière, l'école il ne fera pas nécessaire. Croyez-moi, il peut faire ce qu'il peut, mais il peut pas éduquer, donner la chance à l'enfant. Si l'enfant vraiment il prend pas sur lui, il est fini. Et c'est ça que je remarque à chaque école. Vous savez, depuis l'année dernière, j'ai témoigné devant 8000 élèves. Et dans les 8000 élèves, il y a beaucoup de difficultés. Et on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas
c'était
dire...
C'était dans une banlieue, dans des quartiers?
Souvent, je vais dans les quartiers où il y a le problème, où il y a les sensibilités. Et quand vous allez dans l'école, que vous trouvez 100% des origines maghrébines, et quand l'enfant il ne réussit pas au collège... Fini, on l'amène dans l'école professionnelle. Et là, l'enfant, elle est finie.
Nadia Remadna, pardon. Vous avez fondé la Brigade des Mères il y a un an et demi, c'était à l'été 2014, sur un ras-le-bol, sur une urgence à agir. Dans votre livre, Comment j'ai sauvé mes enfants, vous dénoncez une entreprise politique, voire médiatique, hein, vous n'êtes pas tendre à l'égard des médias, d'assistanat, de victimisation, justement, dans les quartiers, auprès des jeunes. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Latifa Ibn Ziyaten?
Alors, moi, ce que je veux dire, Latifa, moi aussi j'ai travaillé, j'étais professionnelle dans les écoles et tout ça, j'ai travaillé. Et moi je peux vous dire, en fin de compte, c'est vrai qu'effectivement, là où je vous rejoins par rapport à la mixité, il n'y a pas la mixité. Mais il y a aussi cette victimisation par rapport, quand vous enferme, en fin de compte, moi je dis souvent, on a l'impression d'être dans des prisons à ciel ouvert, dans certains quartiers. Effectivement, alimenter l'échec en disant de toute façon tu ne vas pas réussir, tu es dans un quartier, tes parents ne savent pas lire, de toute façon regarde là-bas c'est les méchants, alors restez entre nous. Je pense que non. Alors nous dans notre association on travaille justement dans l'autocritique. On travaille sur notre autocritique. Bon, on parle souvent du racisme, de la discrimination, et je trouve que les politiques alimentent avec leur discours en disant ils viennent... Ils travaillent avec nos blessures. Par exemple, vous allez dans les quartiers, les politiques ils vont venir vous parler de la guerre d'Algérie. Ils vont vous parler de la discrimination. Ils vont vous parler de l'islamophobie. Effectivement, quand vous avez des jeunes qui sont déjà fragiles, déjà qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de rêve, et si vous, à côté nous, les professionnels et les politiques, on rajoute ce discours, je trouve qu'on est...
Vous trouvez qu'il n'y a pas de raison de venir parler de la colonisation et de la guerre d'Algérie dans des quartiers où il y a des élèves qui sont d'origine maghrébine?
Non, c'est pas qu'il n'y a pas raison. En fin de compte, c'est pas aux politiques. Parce que bon, il y a l'école où on parle d'histoire et on connaît l'histoire. Et je trouve qu'à un moment donné, on vous enferme dans votre culture, dans votre nationalité, dans votre histoire, dans vos blessures, et à chaque fois, on vous parle que de vos blessures. Alors moi, je demande qu'il faut qu'on parle à nos enfants comme on parle à tous les citoyens français.
Donc en fait, vous dénoncez une forme de clientélisme
des
politiques.
Moi, je travaille dans les quartiers depuis 25 ans, j'y travaille, j'y habite, et je peux vous dire que qu'à un moment donné... Ces jeunes, moi je les connais, pardon, je connais très bien les jeunes. Moi, quand je parle avec les jeunes, moi je n'ai pas du tout votre discours, moi j'ai vraiment un autre discours. Je dis effectivement, le racisme, il est universel, il n'est pas français, il est universel. Le racisme, pardon, il existe partout. Moi j'ai vu du racisme, par exemple, entre un mariage marocain et algérien. La maman est marocaine et le garçon est marocain. Et les parents ne voulaient pas. Et les mères se sont disputées, tout simplement. La mère qui disait à sa fille, je t'avais dit de ramener un marocain. Et la maman algérienne qui disait à son fils, je t'avais dit, ramène-moi une algérienne. Tout sauf une marocaine. Alors je leur parle de ça.
Vous avez fondé une brigade des mères, pas une association, même si c'est un statut associatif. Oui. Parce que finalement, vous dénoncez, vous le dites dans votre livre, les associations couscous. Qu'est-ce que c'est?
En fin de compte, quand je dis les associations couscous, je voulais, en fin de compte, brigade, parce que je me suis dit, pendant 30 ans, la politique de la ville, il y a beaucoup d'associations dans les quartiers, il y a des gens qui font un travail formidable, heureusement qu'elles sont là, et je me suis dit, comment que ça se fait pendant 30 ans qu'on voit le dégât, c'est plus possible. J'ai dit parce que ce sont et quand il y a des j'ai été voir Monsieur Hollande, je lui ai dit pourquoi quand il y a des effets graves dans les quartiers, on fait appel aux hommes et aux religieux et aux élus, mais jamais aux maires. Et pourtant, elles seront les premières à affronter à ça, parce que la douleur d'une mère, elle est là. Et pourquoi
vous,
les
vous
mères...
trouvez qu'on n'écoute pas assez votre expertise à toutes les trois, une expertise de la vie avant tout?
Moi, je trouve que oui, on n'écoute pas, et particulièrement dans les quartiers défavorisés comme les nôtres, dans les banlieues. Pourquoi? Parce que moi, je dis souvent, c'est un machisme intégriste. C'est du machisme intégriste. Et souvent, quand on touche, parce que moi-même, je suis musulmane et j'ai la foi et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on s'est servi de la religion. Il y a certains jeunes qui ont réussi, qui ont fait Sciences Po et tout ça, et qui viennent dans les quartiers flirter entre guillemets avec nous, les musulmanes, tout ça, à la sortie des écoles, donner des tracts et disent oui, de toute façon, vous inquiétez pas, le maire va mettre de la viande halal dans les cantines. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va toujours, voilà. Et moi, je dis que si on dit qu'on est laïque, un politique n'a pas à venir nous voir et nous dire qu'on va mettre
vous
de la viande halal dans les cantines.
Vous avez le sentiment, toutes les trois, puisque vous êtes essentiellement sur le terrain, vous avez le sentiment d'être crédible, plus crédible que les autres pour les jeunes, toutes les trois,
crédible.
Latifa et Mdiaten.
Moi, la seule chose que je vois, il y a une souffrance. C'est pour ça que je dis la priorité que l'on doit faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir ces ghettos, ouvrir ces cités fermées, donner la chance à l'enfant. On dit l'égalité, je ne la vois pas. L'égalité de laisser l'enfant où il vient étudier, d'ouvrir cette frontière. On ne peut pas les laisser enfermés dans leur cité.
Vous, en tant que maman d'un fils parti en Syrie.
Oui, moi, j'entends votre discours, je ne me reconnais pas dedans. Mon fils ne vient pas d'un ghetto. On a beau vivre en milieu, on ne vit pas dans les cités. Et pourtant, mon fils a été touché par ça. Il s'est approprié peut-être un mal-être d'autrui, mais lui n'était pas dans cette configuration d'échec. Vous dites, il faut dire à sa mère qu'on l'aime, il faut parler, dire à son enfant qu'on l'aime. Mais il était dans une famille aimante. Il me dit qu'il m'aime encore. Simplement, il y a un moment, si vous voulez, sa pratique religieuse a dévié. Il n'a pas rencontré les bonnes personnes. Je sais que ce n'est pas l'islam majoritaire. Il n'empêche que c'est l'islam quand même. Et si vous voulez, moi j'ai besoin un moment qu'on me dise, que les gens prennent la parole en disant éduquons-les. Arrêtons de culpabiliser les parents. Arrêtons de dire voilà, ce n'est pas religieux. Il y a du religieux là-dedans. Simplement, ce n'est pas bien compris. Je sais que ce n'est pas bien compris. En attendant, lui, il est dedans. Et entre le message d'amour qu'il avait au début, l'islam est une religion d'amour, comme le sont les autres religions. Il en est maintenant à dire, parce qu'il est endoctriné, là-bas, qu'est-ce qu'on dit en Syrie, en Irak, à ces jeunes? C'est une religion d'inimitié, d'accord? C'est une religion violente, envers les mécréants que je suis, que vous êtes à leurs yeux, que Nadia est. Malheureusement, je suis excusez-moi d'être caricaturale, mais c'est vrai. Hein. Je pratique le yoga, je suis une mécréante dangereuse.
Bien sûr, on va reparler de la rébellion de ces jeunes qui se rebellent, y compris contre leurs propres parents musulmans. On est bien d'accord. Oui. Mais comment se fait-il que...
Non, mais voyez, ça va loin.
Comment se fait-il que... On vous entende, vous, les mères, vous, les sœurs, les épouses. Où sont les maris? Où sont les pères? Où sont les frères? On n'entend que vous dans les médias, Nadia Rebana.
Où sont les pères? J'allais dire, les hommes, ils sont sur le terrain, justement, que nous...
on n'entend pas les grands frères, par exemple.
Les grands frères, si, mais les grands frères, justement, sont justement dans ce côté-là, justement, parce que ça reste des hommes. Alors, eux, ça les arrange, quelque part, parce que eux, ça les arrange. Et l'homme, il y a toujours ce côté macho qui, l'homme, justement, parce que les interdits sont vers les femmes, sont pas vers l'homme. Alors l'homme, pourquoi vous voulez qu'il se réveille aujourd'hui et dire stop à tout ça? Malgré s'il y a beaucoup de pères qui se réveillent aujourd'hui.
Là, il y a des hommes qui sont dans une détresse.
Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les quartiers, c'est que moi, je suis musulmane. Mes enfants sont musulmans. Effectivement, on en parle beaucoup dans le quartier et tout ça. Et ils nous disent, effectivement, normalement, si on suit la religion te dit que toi, t'es une femme, on doit pas entendre ta voix, on doit pas ceci, on doit pas ça. C'est ce qu'ils nous disent, les jeunes. Et quand on parle aux jeunes et on leur dit, par exemple, oui, mais la religion musulmane te dit la première chose, tu dois respecter tes parents, particulièrement ta mère, et tu dois respecter ceux qui te donnent le savoir. Mais, effectivement, eux aussi répondre, c'est du tac au tac.
Bon, vous restez avec nous toutes les trois, hein. Véronique Roy, Latifa Mdiaten, Nadia Remadna, des mères louves. Je ne sais pas si vous acceptez l'adjectif ou pas. Vous restez avec nous, nous entendrons juste après le flash, une autre femme directement confrontée au radicalisme. Elle a passé 2 mois en Syrie. On se retrouve dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Un an après les attentats de janvier, nous donnons la parole à des maires qui se mobilisent pour les jeunes. Latifa Imdiaten sillonne les écoles, et pas seulement d'ailleurs, également les prisons, en mémoire de son fils militaire français assassiné par le djihadiste Mohamed Merah en 2012. Nadia Remadna a fondé la Brigade des Mères. Véronique Roy, dont le fils a rejoint Daesh il y a plus d'un an. Des femmes à la fois blessées et combattantes qui estiment qu'il faut parler, convaincre, ne pas perdre espoir en cette génération touchée de plein fouet par les réseaux terroristes. Il y a aussi des femmes qui sont elles-mêmes parties pour la Syrie. Bien sûr, moins nombreuses que les hommes. Alice Milo, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez rencontré hier Sophie Kassiki, c'est un nom d'emprunt, hein, une Française d'une trentaine d'années partie en Syrie en février dernier pour rejoindre l'État islamique et qui a réussi à s'échapper après 2 mois d'enfer. Cette repentie raconte son histoire dans un livre, Dans la nuit de Daesh, qui paraît aujourd'hui même aux éditions Robert Laffont. Expliquez-nous, Alice Milo.
Alors oui, effectivement, l'histoire de Sophie Kassiki est comme une pelote de fil emmêlée. Elle est très difficile à résumer. Alors, Sophie est née au Cameroun. Elle est orpheline à l'âge de 9 ans. Sa famille l'envoie donc chez sa grande sœur qui vit à Paris et elle se retrouve déracinée et doit porter le deuil non digéré de sa mère. Alors, malgré une dépression qui la suit toute son enfance et son adolescence, elle épouse Julien, un instituteur, devient maman d'un petit garçon, Hugo, et elle trouve un travail d'éducatrice dans une maison de quartier dans les Yvelines en banlieue parisienne. Et c'est là-bas qu'elle rencontre Idriss, Mohamed et Souleymane. Elle les appelle affectueusement les gamins, bien qu'il s'agisse de grands gaillards d'une vingtaine d'années.
Ouais. Et comment tout bascule pour cette femme ?
Alors tout bascule le jour où Sophie apprend que les 3 gamins sont partis en Syrie. Elle se retrouve à gérer le chagrin de leur famille, complètement effondrée. Elle-même est abasourdie, ne comprend pas leur choix. Tous essayent en tout cas de refaire le film à l'envers pour essayer de comprendre ce qu'ils ont raté. Jusqu'au jour où Sophie, en personne, reçoit un appel des garçons depuis Raqqa, en Syrie. Et à partir de là, elle retisse des liens téléphoniques avec eux.
Ils appelaient assez régulièrement pour donner des nouvelles, que eux, ils étaient là, ils essayaient d'aider les populations, que la population syrienne souffrait. Ils parlaient beaucoup de l'oppression du gouvernement syrien, qui voyait réellement ce qui se passait et que c'était dur, mais que c'était utile, quoi, ce qu'ils faisaient. Donc petit à petit, en fait, ils ont commencé à parler des hôpitaux, donc ils insistaient pas mal sur les hôpitaux. Ils m'en parlaient en me disant, tu sais, il y a besoin de monde, tu peux faire des choses, il y a pas mal de femmes qui travaillent dans ces hôpitaux, tu pourrais aider ici aussi, il y a besoin de monde, tu pourrais venir voir comment ça se passe et franchement, ça te ferait du bien, de toute façon, nous, on est là pour toi. Il y avait aussi, voilà, ils essayaient de me rassurer sur le fait que non, à cet endroit-là, ça ne bombarde pas, de toute façon, on ne te proposerait pas si c'était dangereux. Au début, j'étais complètement réticente. Moi, je leur parlais justement des familles pour eux les faire réagir, peut-être pour les faire revenir. Et en fait, ça a eu l'effet inverse.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire revenir les jeunes, c'est elle, hein, Sophie, qui finit par se laisser convaincre de partir pour la Syrie, Alice.
Et oui, et alors faut préciser quand même que Sophie a grandi dans un foyer chrétien, mais qu'elle a décidé de se convertir à l'islam quelques années auparavant. Elle est donc vraiment dans une quête spirituelle à ce moment précis de sa vie. Mmh. De plus, son couple bat de l'aile, et dans son travail d'éducatrice, elle a le sentiment de se battre contre des moulins à vent faute d'argent. Bref, Sophie est dans une impasse et elle a besoin de donner du sens à sa vie. Et puis, ce que l'on comprend aussi en lisant le livre de Sophie, c'est que sa dépression est si intense qu'elle est face à 2 choix, partir en Syrie ou mettre fin à sa vie. Donc, elle part. En prétextant auprès de son mari une mission humanitaire en Turquie dans un orphelinat. Et en février 2015, elle décolle avec son fils de 4 ans, direction Istanbul, où là, tout est organisé par les 3 garçons pour qu'elle rejoigne Raqqa le plus facilement possible. Alors à son arrivée, il l'installe dans un grand et bel appartement où elle comprend que les propriétaires syriens ont fui ou ont été chassés très peu de temps avant son arrivée. Et quelques jours après, elle démarre son travail de bénévole dans une maternité du quartier où les conditions sanitaires sont épouvantables. Et petit à petit, elle découvre la réalité de l'État islamique. Porter en permanence le niqab, l'impossibilité en tant que femme de prendre un taxi seule sans être accompagnée de son tuteur homme. Et surtout, elle découvre un pays sous occupation où les Syriens subissent en fait l'autorité des hommes de Daesh, pour la plupart des moudjahidines venus de l'étranger, qui se comportent comme des conquérants. Et tout cela la choque quelques jours à peine après son arrivée. Et c'est son mari, resté en France, qui lui ouvre les yeux.
Une semaine après notre arrivée, j'ai réussi à me mettre en contact avec mon mari. Enfin, il nous disait de revenir, qu'il a besoin de nous. Il me parlait de ce qu'on a vécu, des belles choses, parce qu'il y avait aussi des belles choses qu'on a tendance à mettre de côté quand on n'est pas bien. Il m'envoyait des photos du passé. Il y avait une photo particulièrement qu'il m'avait envoyée, qui était une photo que j'aimais plus que tout. C'était une photo de mon fils et moi. Il me l'a envoyée et j'avais quasiment oublié l'existence de cette photo. Je me suis dit, en fait, oui, il y a un truc qui n'est pas normal. Je ne peux pas oublier ça, je ne peux pas... C'est ça qui me sortait de cette torpeur. Moi, c'est ce que je dis. En fait, j'avais l'impression de... Je ne sais pas, comme quand on peut prendre, par exemple, un somnifère et que le somnifère commence à faire effet, qu'on est complètement... comme dans un nuage, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un gros problème et que je n'avais rien à faire là. Et très vite, il m'a dit, il faut que vous reveniez. Tu rentres à la maison.
Le mari de cette Française, Sophie, applique donc à la lettre les techniques, les conseils de Dounia Bouzard, qui est fondatrice du CPDSI, qui est une structure spécialisée dans la déradicalisation des jeunes, c'est-à-dire convoquer les souvenirs heureux pour ramener les endoctrinés à la vie. Ça ne marche pas à tous les coups, évidemment. Non. Comment se passe ensuite la fuite de Sophie Kassiki, Alice?
Alors, Sophie avertit les trois garçons qu'elle veut rentrer chez elle. Ils refusent et la séquestrent pendant de nombreuses semaines, malgré sa grève de la faim. Puis, ils l'envoient dans une madafa, c'est une garderie pour les femmes des Moudjahidines. Elle profite d'un moment d'égarement des geôlières pour s'enfuir avec son fils et trouve refuge chez une ancienne voisine, une Syrienne qui accepte de la cacher chez elle, bien que les risques soient énormes. Pendant ce temps-là, Julien, le mari de Sophie, se démène comme un fou depuis la France pour trouver des contacts pour exfiltrer sa femme et son fils du pays, avec l'aide en particulier de l'armée syrienne libre. Elle quitte donc enfin la Syrie avec son fils de 4 ans, dans des conditions vraiment rocambolesques.
Retour en France ensuite.
Eh bien, donc, elle est incarcérée pendant 2 mois pour séquestration d'enfants. Aujourd'hui, elle vit toujours avec son fils et son mari et elle compte bien, avec son livre, éviter que d'autres femmes ne tombent dans le même piège qu'elle.
Ouais. Véronique Roy, comment vous réagissez? Je sais que vous...
Ça me donne de l'espoir en même temps, parce que je me dis, il y a des femmes qui rentrent et c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Donc, je me dis, si elles arrivent à rentrer... Parce qu'il faut beaucoup de courage.
Très vite,
pour rentrer.
Hein, quelques jours, voilà. Enfin deux mois après, quelques semaines après.
Donc bon, voilà, je me dis, si une femme peut le faire, un homme peut le faire. Il a eu le courage de partir, parce que je vais peut-être choquer certains auditeurs de dire ça, mais n'oublions pas qu'un jeune qui part endoctriné, il part pas forcément complètement de son plein gré, hein, parce qu'on dit oui, il part et il est majeur déjà, donc il est responsable. Mais si on admet le fait qu'il est, c'est une dérive sectaire, il est donc manipulé. Quand on est manipulé, on n'est pas totalement libre de ses actes. Donc on part avec une certaine idée de la raison pour laquelle on part, mais quand on arrive, on est souvent dans la désillusion. Et faire machine arrière, c'est très compliqué, parce qu'on s'engage pour une cause, souvent humanitaire, c'est le cas de mon fils, mais de beaucoup de jeunes qui partent. C'est comme ça qu'on les attire, en tout cas, c'est de la séduction par l'humanitaire. Et après, ils se rendent compte que c'est pas forcément ce qu'on leur avait dit. Ils partent pas dans l'intention de tuer. Simplement, là-bas, c'est une guerre. Ils sont armés parce que c'est obligatoire. Il n'y a pas le choix. Donc, les garçons, de toute façon, ils sont obligés de prendre les armes.
Aujourd'hui, c'est quand même plus clair, hein, les objectifs. Probablement qu'il y a plus d'un an, les objectifs étaient moins clairs. L'objectif humanitaire pouvait apparaître, mais il est de moins en moins mis en avant par les jeunes.
C'est moins mis en avant, ça, c'est sûr. Donc, les choses ont changé en un an. Par contre, une fois qu'ils sont là-bas, ils font allégeance. D'accord? Et ne plus faire allégeance à l'État, ça les met en danger. C'est-à-dire qu'il y a deux choix qui s'opèrent. C'est soit je continue et je dissimule, comme ils faisaient en France d'ailleurs, en se cachant, et ils essaient éventuellement de partir, soit ils continuent parce qu'en plus ils ont peur de rentrer à cause de la prison. C'est la seule chose qu'on leur propose.
Latifa Ibn Ziaten, vous, quand vous êtes face à des jeunes qui se radicalisent, qui ont envie de partir pour la Syrie, qui ont un projet de départ, quand vous disiez tout à l'heure en première partie d'émission, j'ai réussi à sauver quelques jeunes pour l'instant. Comment vous dialoguez avec eux?
Moi, j'avais sauvé un jeune qui était converti à l'islam et que sa mère, c'était une femme, il avait un bon poste, une famille normale, mais il n'a rien vu. Comment son fils il a changé et à un moment donné il a commencé à faire des ordres chez elle, plus d'assiettes en dessin, plus dorées, la manière de prier, etc. Et à la fin il voulait plus manger avec elle à table et là il commençait à se poser des questions et il m'a dit s'il vous plaît madame est-ce que vous pouvez venir. Et je suis venue voir
la maman
qui m'a appelée. J'ai travaillé avec lui à peu près 6 mois. Et j'avais
à quelle fréquence?
6 mois, ben, il est loin. Il fallait que je me déplace.
Il y avait des conversations par téléphone?
Non,
également.
Non, je me déplaçais parce que c'était pas suffisant d'appeler au téléphone. C'était pas suffisant pour lui parce que toujours il me disait je suis pressée, j'ai pas le temps à vous donner, madame, s'il vous plaît. Et il fallait que je me déplace. Et là, je le coinçais. Là, on était toutes les deux dans le café et on parlait.
Votre statut de mère endeuillée, est-ce que ça comptait pour lui ?
Il a vu, il sentait ma souffrance, mais il me disait, mais c'est comme ça. C'est ça que ça me faisait un peu enragée, parce qu'il me dit, c'est comme ça. Mais comment c'est comme ça ? Vous voyez pas la souffrance ? Mohamed Marah, il m'a pris mon fils. Il m'a pris la vie de mon fils, il m'a laissé en souffrance. Comment tu peux penser à ça ? Comment tu peux trouver ça normal ? Et ce jeune homme-là, pour le mettre au droit chemin, c'était tout simple. Je lui dis, tu as lu vraiment le Coran ? Tu connais l'islam ? Il m'a dit oui. Alors j'ai dit, si tu refuses de manger pas avec ta mère à table, tu ne peux pas rentrer au paradis. Parce que le paradis est le au-dessus de ce genou de ta maman. Il m'a dit, quoi ? J'ai dit oui. Cette femme que vous dites, elle, c'est votre mère. Et cette mère qui vous a mis au monde. Et c'est elle qui vous a donné la vie. Alors, si tu l'écoutes et tu l'aimes, grâce à elle, tu seras au paradis. Il m'a dit, je ne vous crois pas, madame. J'ai dit, je suis là, je resterai ici et tu vas aller te renseigner. Si tu trouves que je suis fautif ou je raconte des bêtises, et c'est ça l'islam. Et ce jeune homme, effectivement, on a mangé ensemble, il est parti, et il est venu, il m'a dit, effectivement, madame, vous avez raison. Alors je dis, respectez cette mère, respectez-la et vous verrez. C'est la seule chose que j'ai déclenchée dans ce monde.
Bah, je trouve ça extraordinaire si vous avez réussi à faire dans ce cas précis. Hein. Mais moi, mon fils partageait les repas avec nous, avec moi, mon père. Il vivait à la maison sous mon toit. Il n'a pas changé la décoration de la maison. Il n'a pas essayé de nous manipuler de l'intérieur. On avait une vie qui ça continuait normalement. Il y a un moment où il y a quelque chose qui a changé, qu'on n'a pas vu, ça s'est passé. Vous savez, c'est très rapide.
Ça a été vite.
Il y a un moment, c'est fugace, c'est quelque chose qui échappe. Mais il ne faut pas rentrer dans la culpabilité. Bien sûr, quelque chose nous a échappé.
C'est pour ça que je vous dis, c'est une secte, ça n'a rien à voir avec l'islam.
Non,
c'est
mais
une secte.
Je suis d'accord avec vous, madame. Ça n'a rien à voir avec un virus. Mais je sais ça. Sauf qu'il a croisé des gens qui lui ont dit, l'islam que tu pratiquais avant n'est pas le bon. Il y a un jeune comme ça qu'il a fréquenté à l'université quand il faisait ses études de sport, que j'ai eu sur Messenger, qui m'a dit, je lis initié. C'est moi qui l'initiais au bon islam. Ça veut dire quoi ? Il y a un bon et un mauvais islam. À chaque fois que j'ai rencontré des érudits, à la Grande Mosquée de Paris, ou des gens qui se prétendent pas ignorants, justement, qui connaissent l'islam, ils disent, voilà, c'est des ignorants, ils savent pas. Mais moi, mon fils, quand il était dans l'association de jeunes musulmans, je l'ai vu, l'association, il y a quelques mois. Je leur ai dit, mais vous n'avez rien fait quand vous avez vu qu'il était sur le mauvais chemin, comme vous dites ? Non, ils l'ont laissé. Ah, c'est pas nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les radicaux qui ont le verbe « haut », qui ne sont pas majoritaires, effectivement, ils sont très forts psychologiquement pour manipuler, etc. Ils ont réussi à le prendre, Félix. Ils ont réussi
alors,
à le prendre.
Justement, Dounia Bouzard, anthropologue...
Enfant, madame. Je respecte beaucoup votre douleur. Mais, voyez, moi, je ne l'ai pas perdu, mon fils, encore totalement. Mais je suis dans la même souffrance parce qu'on m'a ôté mon enfant. Vous voyez, on nous a kidnappé, nos enfants.
Dounia Bouzard, l'anthropologue qu'on entend beaucoup dans les médias, alerte aujourd'hui sur des jeunes pris dans la toile internet de Daesh, des jeunes qui précisément ne sont pas issus de l'immigration, ni de milieux modestes, ni victimes de l'échec scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les trois, Nadia Remadna?
Alors,
une génération qui incuberait là en ce moment finalement, qui serait appelée à être plus nombreuse demain.
Moi je dis que de toute façon... J'allais dire l'homme a toujours été barbare, j'allais dire ça. Mais effectivement, aujourd'hui, ça touche des enfants comme les enfants de Véronique. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont rien à voir avec... Ils n'habitent pas dans les quartiers en difficulté. Ils ont des parents qui travaillent, tout ça, ils ont une bonne vie. Je pense qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a un début. Parce que moi, je dis, il y a toujours un début avant Internet. Et en fin de compte, on fait une mauvaise rencontre. Et quand vous tombez avec des gens qui vous disent effectivement... L'islam, en fin de compte, c'est donné, partagé et tout ça, mais on oublie de leur dire effectivement, l'islam, il y a, comme on dit chez nous, le hasanat, faire du bien, effectivement, c'est de convertir des gens. Parce que plus tu convertis, plus t'as le hasanat, et grâce à ce bien qui veut dire le bien, hasanat qui veut dire le bien, faire du bien. Alors eux, c'est des jeunes avec qui il a grandi, il a fréquenté, ils sont copains et tout ça, et aujourd'hui, dans les quartiers, dans certaines associations, parce que ce sont des adultes qu'ils ont autour d'eux, c'est souvent, parfois, des éducateurs de sport, des animateurs, ils les connaissent, alors ils ont plus confiance en eux. Ils te disent, de toute façon, c'est mon animateur depuis que j'étais petit, tout automatiquement, il ne veut que du bien. Et c'est là que moi, j'en veux parfois, pas parfois, actuellement, aux politiques, parce qu'on les voit dans les... Ils ne se cachent pas. ils se cachent pas, ils convertissent pas les jeunes en cachette. Ils viennent en bas des escaliers, à la sortie des écoles, à
encore
côté des bibliothèques.
Encore aujourd'hui, les associations, les éducateurs sont au courant.
Nous, moi, une fois, j'ai eu un conflit avec, je sais même pas comment les appeler. Ils étaient en train avec des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils ramenaient le goûter et ils étaient là en train de leur dire, eh ben non, si tu es un bon musulman, tu dois faire ça, ça. Moi,
ils sont connus des milieux associatifs dans
votre
quartier, dans votre ville.
Ah oui, ils sont connus, ils ne se cachent pas. C'est pas des gens qui font ça à minuit.
Encore aujourd'hui, depuis les attentats du 13 novembre.
Ils viennent, ils sont convaincants, parce que je vous dis, parce que les jeunes ne se méfient pas d'eux, parce qu'ils les connaissent. C'est pas des gens qui viennent d'ailleurs.
Mais alors, en tant que militante, vous pensez quoi? Il faut immédiatement les signaler ou il faut parler avec eux?
On a signalé, mais on nous dit que c'est pas un délit. De justement, c'est pas un délit d'aller dire à quelqu'un
sous prétexte de la laïcité.
Sous prétexte de la laïcité. En plus, le problème qui se passe, nous, on a alerté. Est-ce que nous, on alerte dans la brigade des maires, c'est que les maires, justement, se reproprient l'éducation religieuse. C'est à nous, les parents, de transmettre une éducation religieuse à nos enfants ou pas. Ce n'est pas à l'éducateur, ce n'est pas aux animateurs, ce n'est pas aux voisins. Et c'est ça qui
est-ce qu'aujourd'hui, votre mobilisation aux unes et aux autres peut transcender les territoires, les milieux sociaux?
Oui, bien sûr, ça touche tous les milieux, ça touche tout le monde, tous les milieux sociaux. Moi, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à quelqu'un d'autre.
Ah oui,
si vous avez des enfants, ça peut vous arriver, malheureusement. Parce qu'il y a des jeunes qui s'approprient le mal-être aujourd'hui. Il y a un mal-être dans la société, il y a une quête d'idéal. Et même si on ne vit pas une situation de ghetto, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des jeunes qui se disent, oui, c'est vrai, il y en a. Ont moins de chances que d'autres. Oui, il y a du chômage. Oui, il y a de l'injustice. Oui, il y a de la corruption. Le monde est plus très éthique. Enfin, en tout cas, c'est ce que renvoient les médias aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a des jeunes qui se disent, et si finalement on faisait une révolution, il y a quelque chose comme ça. Enfin, je ne parle pas avec les mots de mon enfant, hein. C'est de l'interprétation que je fais à partir de livres que je lis pour connaître les profils. Il y a une espèce de mouvement de rébellion en disant on va faire une société plus juste. Et on pense, on leur fait croire, parce que c'est vrai que parfois le religieux peut amener à quelque chose de plus moral, on leur dit, ben voilà, avec un islam authentique,
du temps du prophète, juste, précisément dans des quartiers où les jeunes, ça a été beaucoup dit,
inégalité,
notamment au lendemain des attentats contre Charlie, qu'ils vivaient dans des quartiers où ils étaient victimes d'injustice. Mais aujourd'hui, les analyses ont évolué. Le politologue Olivier Roy estime que rien ne sert de leur offrir un islam modéré, c'est la radicalité qui les attire par définition. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Latifa Ibn Ziaten? Parce que si c'est le cas, quelle solution et surtout à quoi sert votre action?
Il n'y a pas un islam modéré. Moi, je dis tout.
Il y a un islam tout court, vous voulez dire.
L'islam modéré, moi, je connais
pas. Oui, mais il y a plusieurs niveaux de lecture, pourtant, il y a plusieurs courants.
Moi, je ne connais pas l'islam modéré, madame. Je suis désolée. C'est un seul islam.
Oui, mais vous avez la chance d'avoir grandi avec un islam qui
est sans doute
transmis de père en enfant.
J'ai grandi avec un islam. Je suis née en France à l'âge de 17 ans et demi. Oui. Je me suis intégrée. Je suis rentrée dans une vie et un pot d'une femme française. Oui. J'ai 5 enfants. Je les ai élevés avec dignité, avec respect. Ils ont réussi.
Mais ça, c'est certain.
Il fallait quelqu'un qui était mal élevé, mal éduqué, qui a tué mon fils. Voilà, la réalité, elle est là. Et tout ce que je rencontre aujourd'hui, la plupart, je n'ai jamais encore, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi, trouvé une famille idéale et que le fils est parti en Syrie. C'est toujours l'enfant
j'ai
qui part en Syrie.
J'ai un peu mal à écouter ce que vous dites,
la souffrance,
excusez-moi.
Soit la souffrance, soit il a manqué de quelque chose. Vous savez, je travaille avec un jeune au prison.
Là, vous êtes en train de culpabiliser
les familles dans les gens, parce qu'on
parle des enfants.
Non, mais c'est que je côtoie. Et moi, aujourd'hui, je vous assure, j'ai pas trouvé un enfant, l'idéal, qui travaille, qui a réussi, qui laisse tout tomber, ils sont pas.
Ah ben, malheureusement, il y en a.
Non, il y a des jeunes qui ont des
pensées, je peux vous en ramener.
Moi, jusqu'à aujourd'hui, même avec le prison, que je travaille avec des gens qui sont venus de Syrie, ils vous racontent même des choses, soit le divorce, les séparations, il n'a pas accepté, soit une souffrance parce qu'il est malade. Et cette maladie, il n'a pas
vu
et s'est mis dans la religion. Et
peut-être
c'est mal parti.
Que vous avez rencontré que ce profil-là, mais je peux vous dire qu'il y a un autre profil qui existe. On ne va pas loin. Si on voit la guerre civile qu'il y a eu en Algérie, voilà. Les gens qui commettaient des attentats et tout ça, ce sont aussi des enfants de familles aisées. Et je peux vous dire que pas du tout. Je veux dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, quel que soit son statut social, peut partir aujourd'hui, prendre une arme et se rendre en Syrie. Parce qu'il y a, comme disait Véronique, toi, il y a des jeunes, par exemple, par rapport à l'injustice politique ou sociale et tout ça. Ils se disent, effectivement, il y a l'humanitaire. Ils auraient rencontré le médecin du monde dans les quartiers, ben, ils auront peut-être... Ils auraient rencontré, par exemple, alors, des gens qui leur parlent
du faire. On voit bien que vous avez des positions différentes, hein, si ce n'est que après, vous êtes que trois mères ultra...
Je n'ai pas rencontré, sincèrement. Hein. Oui, après, moi, j'ai regardé le parcours de Mohamed Marrah.
Moi, j'ai rencontré
au-delà de vos divergences.
C'est pour ça que je l'ai pardonné.
Oui, au-delà de vos divergences, vous êtes
trois
mères.
Oui, c'est bien d'avoir pardonné d'ailleurs, parce que ce jeune était en souffrance, c'est clair. Voilà.
Oui, vous êtes en souffrance. Trois mères ultra impliquées. Aujourd'hui, alors que les politiques se déchirent sur la déchéance de nationalité, notamment, qu'est-ce que vous demandez comme mesure urgente, toutes les trois? Latifa Imdiatel.
Moi, l'urgence, c'est de donner les moyens. Donner l'importance aux jeunes. Les écouter, les aider.
Mais plus précisément.
Précisément, c'est ça. C'est les moyens. Les jeunes, ils manquent de moyens. Un jeune qui décroche le scolaire, il n'a pas les moyens, comment il voulait qu'il va s'en sortir? Il faut donner les moyens à cette jeunesse. On ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux et on reste sur l'islamophobie, sur l'islam terrorisme, sur ceci, sur cela. Il faut donner les moyens pour sauver ce pays. Le moyen dans les quartiers ou au-dehors de quartiers, parce qu'il y a la souffrance partout aujourd'hui. Et c'est la réalité.
Nadia Remadna.
Alors... Moi, je respecte madame, je suis pas du coup d'accord avec vous quand vous dites faut donner les moyens, parce que les moyens, il y en a, on en a donné. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé à la politique de la ville, on a donné les moyens, mais c'est vrai qu'on les a très très mal utilisés. Parce que vous croyez que si tous les pauvres, si tous les gens pauvres devaient aller à Daesh, la moitié de la France serait en Daesh actuellement. Si vous savez la pauvreté qu'il y a en France et qui touche tous les milieux, quelle que soit leur religion, statut social et tout ça. Si vous avez la pauvreté chez les retraités, la pauvreté chez les paysans.
Vous dites quand même dans votre livre, Nadia Remadna, que quand on n'est pas classé en ZUP, en zone d'urbanisation zone prioritaire, etc., le déclenchement de systèmes de protection, etc., est bien moins présent.
Oui, et moins bien présent. C'est vrai que dans les quartiers ZUP, alors ces zones urbaines sensibles, c'est les quartiers où il y a plus de misère sociale et tout ça. C'est vrai que là, on donne plus de moyens pour essayer justement de combler le vide.
Chez vous, à Sevran, qu'est-ce qui est fait? Vous êtes allé voir le maire, évidemment. Oui. Vous dites qu'il est toujours très fatigué. Vous avez la dent dure hein, sur les politiques.
Parce qu'en fin de compte, ce que je reproche aux politiques actuellement, c'est justement cet enfermement, comme disait madame, le ghetto. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de considérer les banlieues comme si on était dans un pays du tiers-monde et il y avait des ONG qui s'installaient et qui nous rendaient service. On est français, nos enfants sont français, on parle français, on mange français. Et à un moment donné, justement, il faut nous considérer comme des Français tout court, des citoyens français. Et la religion, c'est personnel, ça ne regarde personne. Mais depuis que les politiques ont flirté, je dis bien flirté avec la religion, c'est là que ça va pas. Parce que l'islam, les musulmans, ça, ils sont pas arrivés hier. Rendez compte, depuis quand les musulmans sont en France? Et aujourd'hui, on parle de l'islam. Parce que le problème, c'est que... Les politiques ont payé toutes les cartes. Alors, comme je vous ai dit au début, nous, ma génération, on nous parlait de la guerre d'Algérie. Après, on nous parle de la discrimination.
Donc, le halal à la cantine, et évidemment.
En fin de compte, on touche à ce qui est les blessures pour nous. Bien sûr, quand vous ramenez un jeune de 20 ans et vous êtes politique, et vous lui dites, oui, vous avez vu la guerre d'Algérie, vous avez vu la torture qu'on a fait à vos grands-pères. C'est normal qu'il va agir. On vient, nous. Et maintenant,
donc le halal à la cantine, c'est du clientélisme politique,
oui, bien
et rien
sûr,
d'autre.
Et c'est dangereux,
vous.
Bien sûr.
C'est ce que vous dites dans votre livre.
Ah oui, c'est du clientélisme, ça ne vous regarde pas. Nous, nos enfants, s'ils mangent halal, on s'en fout à la cantine, on les met pas à l'école pour qu'on leur donne un steak halal. On les met à la cantine pour qu'ils s'instruisent. Le reste ne vous regarde pas. Alors aujourd'hui, on nous parle de la laïcité, mais c'est politique qui arrête pas de parler de la laïcité pour un oui, pour un non. On nous parle de la laïcité. Et ben, les maires des quartiers et les mamans demandent quoi? Et ben, respectons la loi. Et voilà. Alors c'est ça qu'aujourd'hui qui ne va pas, parce que quand on va flirter avec les religieux et les religieux qui deviennent politiques, et c'est ça qui est dangereux, parce que les religieux deviennent politiques, ils se mettent dans des listes citoyennes et vont, par exemple, ils vont prendre une maman comme la Taïfa, ils la voient qu'elle est très très pratiquante et très pieuse, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, au moins, elle sait parler, elle est intelligente, mais une maman qui n'a pas la même intelligence qu'elle, ça c'est très vite, oui, vous inquiétez pas madame, il y aura de la viande halal pour vos enfants, on a fait une salle de prière, vous inquiétez pas. Alors, on touche ce qui est sacré pour vous, parce que la religion, pour certaines, elle est sacrée. Et ça va tellement vite, et on voit le résultat aujourd'hui.
Véronique Roy, votre fils est toujours en Syrie. Qu'est-ce que vous demandez en urgence pour que les autres ne suivent pas.
Alors, il y a beaucoup de choses que je demanderai en urgence, mais si je devais en privilégier deux, pour la partie en amont, en prévention, éviter que d'autres partent, je dis attention, la radicalisation, elle se passe chez nous. Elle se passe pas sur Internet. Arrêtons de dire que, tiens, de ce matin, je vais être radical Internet. Islamiste. Non, je rencontre quelqu'un qui me fait changer de chemin. Donc, les radicaux, ils sont chez nous.
Il y a eu aussi des cas de jeunes qui ont changé exclusivement avec des rencontres sur Internet.
Les filles, notamment. Les filles, notamment, mais pas les garçons. Si vous voulez, les garçons.
Mais avant Internet, il y a toujours le déclic.
Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous demandez en urgence comme mesure?
Ce que je demande déjà, c'est qu'on surveille ces associations salafistes intégrées. Je ne sais pas comment les nommer, parce qu'il y a plein de noms pour dire tout. Et en tout cas, elles sont dangereuses. Elles sont là. Elles ont des budgets d'associations, genre associations devoirs du soir. Et elles font un travail de sape en voilant les femmes de la tête aux pieds dès l'âge de 3 ans. Et quand je dis voile, ce n'est pas un petit voile, hein, c'est vraiment en entier. Vous allez dans certaines banlieues ou certains quartiers de Paris aujourd'hui, parce que moi, je ne veux pas parler que de banlieue. Oui, moi, mon fils, il n'est pas symptomatique de la banlieue. Il y a des gamins du 16e qui partent à Daesh aujourd'hui. Donc, attention, la radicalisation se passe chez nous. Donc déjà, soignons ça au départ, parce qu'il y a un mauvais discours, et c'est vrai en France, c'est vrai en Belgique. Et deuxièmement, pour ceux qui sont en Syrie, ce qu'on n'en parle jamais ou pas suffisamment, qu'on aille les chercher. Il y en a qui veulent rentrer. J'ai rencontré une maman en Belgique lundi. À l'avant-première.
On vous a laissé entendre que c'était exclu, hein, néanmoins, à vous tous, les familles.
Oui, pour l'instant.
Est-ce que vous conservez l'espoir de revoir votre fils?
Bien sûr que je garde l'espoir, autrement je meurs. Bien sûr que j'ai cet espoir. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est en vie. Je ne sais pas.
Avant de se quitter, on redonne le numéro vert, peut-être, mesdames. 0800 005 693, c'est le numéro vert de Stop Djihadisme, pour rappeler si on a le sentiment que son enfant est en voie de radicalisation.
Son enfant 0800, ou celui d'un autre?
Bien sûr, ou un grand frère ou un petit frère. 0800 ou une sœur. 0800 005 693, c'est le numéro vert de Stop Djihadisme. Merci à vous trois, Véronique Roy, Nadia Remadna, Latifa Imdiaten. Bien sûr, les références de vos ouvrages sont sur la page de 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Merci également à toute l'équipe et à vous, Alice Milo. Demain, 7 milliards de voisins. Étudier ou travailler dans un pays anglophone, tout savoir sur les fameux tests d'anglais.